Nous recevons deux membres de l'association Environnement Juste. Nous sommes avec Tim Abadi et Anne Godin, donc les membres fondateurs de l'association.
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Alors Anne Godin, vous êtes aussi agricultrice.
Oui, et en biodynamie depuis 33 ans. Je dis biodynamie certifiée.
D'accord. Alors, vous venez parce qu'il y a un projet qui est prévu sur le territoire de Montcuq.
Oui, et beaucoup d'autres ailleurs aussi, et sur des terres agricoles.
Alors, on va d'abord commencer, peut-être pour rappel hein, à nos auditeurs, quel est le principe de l'association Environnement Juste ?
Et bien, comme le dit le nom, l'environnement doit être juste pour les gens qui y habitent et pour les gens qui veulent y travailler, y vivre.
Le but, c'est de défendre, en fait, l'environnement.
Absolument.
Oui, c'est l'environnement. Enfin, nos statuts, les buts de l'association se trouvent sur le site internet de l'association. Mais en gros, c'est la protection de l'environnement. C'est le soutien de la charte de l'environnement qui est entérinée dans la loi française. C'est aussi le soutien de la charte européenne des paysages pour protéger l'identité des paysages certainement exceptionnels du Quercy. C'est aussi pour protéger les populations contre les nuisances sonores, visibles, inodores, etc. La promotion de la maîtrise de l'énergie pour encourager une sobriété en utilisation d'énergie.
D'accord, donc c'est en fait vraiment de l'énergie, oui, mais pas n'importe comment.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, hein, nous parler du projet qui est prévu sur le territoire de Montcuq ?
Je pense que c'est peut-être utile en premier juste de vous lire la position de l'association Environnement Juste. On a deux buts qui sont très clairs, à part nos statuts.
D'accord.
Parce que nous œuvrons pour protéger l'identité des paysages exceptionnels du Quercy, la biodiversité des espaces naturels et forestiers, le potentiel de production alimentaire des zones agricoles et stopper l'artificialisation des terres. Donc c'est vraiment l'indépendance alimentaire de la France qui est en jeu ici. Et puis deuxièmement, pour encourager dans chaque commune une réflexion, puis un plan d'action sur des solutions permettant la production locale d'énergie renouvelable, favorisant l'autoproduction et l'autoconsommation, impliquant les habitants, acceptés par les habitants, et refusant tout intérêt commercial extérieur, sauf lorsqu'elle converge précisément avec les deux objectifs de cette charte. En parallèle, une campagne de sobriété et réduction de la consommation d'énergie dans chaque commune. Donc, on est en train de dire que la vraie énergie verte étant celle qui n'est ni produite ni consommée. Et d'ailleurs, nous allons très bientôt lancer une charte qui va être appelée une charte pour le Quercy, pour proposer au grand public et aux élus de nous rejoindre dans ces deux objectifs.
Donc on en saura plus prochainement.
Oui, dans les quelques semaines qui viennent, c'est en disant dernier brouillon en ce moment, tous les textes. Donc quelques semaines.
D'accord, donc vous êtes une association finalement qui est active.
Oui, très active. Oui.
Nous souhaitons être proactives. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que des projets se développent, enfin pas totalement en catimini, mais on en entend parler très très tard, donc on n'a pas la possibilité de donner nos avis, essayer de suggérer peut-être des améliorations, etc. Donc nous voulons être plus proactifs et essayer d'encourager les gens et de leur montrer comment pourront-on faire ça ? Parce que c'est très bien de dire non, non, non et non. D'ailleurs, il y a, en ce moment, il y a un courrier qui circule, signé par personne, qui donne l'impression que notre association est contre les énergies renouvelables. C'est tout à fait le contraire.
Oui, parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est plutôt une énergie, mais qui soit juste entre nos paysages et le côté humain aussi de la chose.
Absolument, oui. Il n'y a aucune raison de saccager des endroits qui sont magnifiques, d'artificialiser les sols, de démolir tout un tas d'espèces qui ne demandent pas ça, et quand même de faire quelque chose. Donc, voilà, dans quel créneau nous nous mettons.
On va peut-être maintenant parler du projet qui risque d'arriver sur Montcuq.
Si utile, je pourrais juste vous donner brièvement comment ça a commencé, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et après je pourrais vous donner des infos détaillées sur ce qu'est le projet. Donc le projet elle-même a démarré en 2018. C'est une proposition d'implantation d'une centrale photovoltaïque industrielle sur 66 hectares de terres agricoles sur la commune de Montcuq, à côté de Le Breil, en fait, l'ancienne commune de Le Breil. 2018. Ensuite, ils ont déposé une demande de permis de construire en 2020. Et en 2020, fin 2020, il y a eu une réunion de la CDPENAF, c'est-à-dire la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour discuter des propositions de mesures de compensation collective agricole. Et le 22 octobre 2020, le préfet a donné un avis défavorable. Alors, puisque, grâce à une mairie soucieuse de l'environnement et l'impact de ce projet, au moment où la demande de permis de construire a été déposée, nous avons reçu le dossier complet. C'est un dossier de plus de 1000 pages. Mais ça nous a permis et a permis à nos membres spécialisés, qui sont tous bénévoles, de l'étudier en profondeur, donc nous permettre de vous donner des infos que nous pouvons vous livrer maintenant.
Et à propos de ça, du coup de l'obtention de ces documents, en fait, est-ce que c'est un combat pour les avoir, ces documents ?
Oui, souvent. Normalement, les dossiers qui sont dans les administrations en préparation d'une décision administrative ne sont pas communicables. Sauf si elle concerne l'environnement. Et là, c'est le Code de l'environnement, les articles 124-1 et suivants, qui prennent le dessus sur toutes les autres articles. Et quand on demande des documents, la réponse est généralement non, c'est un document préparatif à une décision administrative, pas communicable. Et nous avons été obligés, on vient juste de le faire pour un adhérent dans le Loiret d'ailleurs, de saisir la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, qui vont trancher si est-ce que ces documents demandés sont consultables ou pas consultables. Et l'horreur, c'est que même quand une administration reçoit un avis de communication, et c'est le cas devant lequel nous sommes aujourd'hui dans le Loiret, ils ont dit non, je ne vais pas les communiquer. Alors ça va obliger d'aller plus loin au tribunal administratif.
Et du coup de perdre du temps finalement.
Oui, mais l'objectif de cette démarche, c'est justement pour perdre du temps, pour que les projets puissent sortir au dernier moment avec enquête publique. Essayer de comprendre 1000 pages, vous comprenez, c'est un travail énorme. Donc c'est l'objectif, oui.
Mais en amont, en fait, les mairies ne devraient pas plutôt communiquer, du coup, ces projets avant qu'il y ait les études pour justement avertir ces citoyens, tout simplement.
Il y a des mairies qui le font. On a eu un exemple récent où il y avait un promoteur qui voulait proposer un projet. Et Monsieur le maire, en fait, il a dit à ses conseillers municipaux, il faut avoir une réunion publique d'abord, avant même de recevoir ses propositions. Et il a fait une réunion publique pour la commune, pour discuter du projet. Et il ne va pas prendre position tant que tous ses administrés n'ont pas donné leur position. Et c'est ce qui est en train de se construire maintenant. Enfin, pour moi, c'est exactement comme ça que ça devrait se passer.
Et à Montcuq, ça ne s'est pas passé comme ça ?
Ça ne s'est pas passé comme ça du tout à Montcuq. C'était le fait accompli. Et une fois que... Montcuq ont tombé dans le piège tendu par les vendeurs de parcs...
industriels.
Oui, c'est d'autoriser une étude qu'ils n'ont pas besoin d'autoriser. Donc souvent, les vendeurs disent, je vous demande, puisque c'est merveilleux, vous pourriez bénéficier de toute cette énergie, sauver la planète, etc. J'ai besoin de faire une étude. Est-ce que vous me donnez l'autorisation ? Quand en fait, cette étude est obligatoire sous la loi pour pouvoir déposer une demande de permis de construire, pour surtout en photovoltaïque, pour toutes installations supérieures à 250 kilowatts.
Oui, en fait, ils jouent sur l'urgence climatique, en fait.
Oui.
Oui, et bien sur la psychologie des gens. On les prend au dépourvu, ils n'ont pas eu le temps d'étudier le projet, mais ils vont sauver la planète, il va y avoir de l'argent pour la commune. Donc regardez, tout est bien, tout est beau, dites oui. Bah oui, on va dire oui, mais comme personne n'a pu voir ce qui allait se passer, eh bien les gens ne sont pas au courant. Mais quand vous avez dit oui une fois, c'est très difficile de dire non après. Et ça, les vendeurs le savent très très bien.
Oui.
Et ça, et je aussi, juste pour ajouter, quand le vendeur qui a préparé le projet, il peut repartir avec copie du procès verbal de la délibération de la mairie autorisant cette étude dont elle n'a pas besoin d'autoriser. Et là, ça va aider beaucoup pour les financer le projet.
Et oui, parce qu'il y a le cachet de la mairie.
Voilà.
D'accord. Et oui, donc ce projet de champ photovoltaïque industriel hein, qui est prévu sur Montcuq, il va être à quel niveau, à quel endroit ?
Il est sur le plateau juste au-dessus de... entre Le Breuil. C'est l'endroit le plus proche. La carte... Toutes les informations, d'ailleurs, sont sur le site de notre association. Mais c'est en gros, c'est 66 hectares de terres agricoles divisées en trois morceaux parce qu'il y a des propriétaires différents. Donc ça facilite les choses de ce point de vue-là. Et aussi pour les appels d'offres de l'État, c'est plus convenable parce que ce n'est pas garanti qu'ils ne vont pas pouvoir vendre leur... électricité. Donc c'est sur ces trois sites qui sont très proches l'un de l'autre, qui sont en fait de chaque côté d'un ancien chemin rural gallo-romain qui s'appelle le Clermontois.
Oui, donc il y a quelque chose du patrimoine en fait qui passe au travers.
Absolument, c'est un très ancien chemin. Ils ont essayé de le dévier. L'année dernière, il y avait proposition de déviation de ce chemin par la mairie de Montcuq, qui a été soumis à enquête publique. Et notre association a donné sa contribution à l'enquêteur public. Et heureusement pour nous, il a donné un avis défavorable, ce que je pense va obliger le promoteur de modifier son projet. D'ailleurs, je vais vous parler de modification de projet un peu plus tard. Donc oui, patrimoine très important. Les gens ne voulaient pas que leur ancien chemin change de route.
Oui, bah, en fait, quand je vois déjà comment c'est difficile pour des personnes, hein, c'est un exemple qui, pour moi, peut correspondre tout à fait. Hein. C'est si je veux mettre un panneau solaire sur ma maison, mais qu'il y a une église ou un château à côté, eh ben, les architectes du bâtiment de France me disent non. Donc oui. Là, c'est le même principe.
C'est un grand problème. Je pense que l'État va être obligé de donner des instructions aux architectes des bâtiments de France pour accepter des projets d'énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire thermique pour l'eau chaude et solaire photovoltaïque pour l'électricité, s'ils sont bien intégrés dans le bâti. Sinon, ça va écarter tous les villages, enfin toutes les surfaces dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment protégé. ils vont être obligés de ne pas être dans la modernité avec de l'énergie renouvelable chez eux en autoconsommation.
Oui, après là, on est sur du champ photovoltaïque. Donc, intégrer des panneaux solaires sur 66 hectares dans le paysage, ça me paraît un peu difficile.
Ça s'appelle une intégration paysagère.
Voilà.
Oui. C'est pareil, je dois dire, c'est pareil pour une éolienne industrielle de plus haute que la tour
Montparnasse.
On va faire une intégration paysagère.
Oui, avec des haies sur le pourtour.
Des haies, voilà. Ben, ça, c'est exactement ça. Est-ce que vous voulez que je vous parle du projet lui-même, concret, comment ça se passe ou... Je vous ai expliqué déjà qu'on a reçu tous les documents de la demande de permis de construire, et donc on a épluché, c'est plus que 1000 pages. Et la première chose qu'on a constatée, c'est pour contourner les règles d'urbanisme qui interdisent en principe de telles installations, les promoteurs ont inventé un merveilleux mariage entre production d'énergie et production agricole qu'ils appellent agrivoltaïque. Donc dans le cas présent, le projet de Montcuq, ils proposent de remplacer les céréales existantes par un cheptel de plusieurs centaines d'ovins qui brouteront donc à l'ombre de plus de 110 000 panneaux photovoltaïques installés en rangée avec une hauteur dans les paysages de 3,10 m, à peu près à perte de vue. Nous avons préparé et envoyé des points de synthèse sur ce projet aux membres de la CDPENAF avant leur réunion en 2020 qui a résultat l'avis défavorable du préfet. Mais juste pour donner une idée de l'étendue de ce projet, nous apprenons dans l'étude d'impact environnemental préparée par Photosol, enfin pour Photosol, par des bureaux d'études indépendantes, nous avons appris que pour construire ce central, il y aura une émission de 46 878 tonnes, précisément, de CO2 équivalent.
Oui, donc c'est de la fabrication des panneaux solaires jusqu'à la fin du chantier.
Et oui, ça nous dit, et le montage de la centrale avant sa mise en service. Deuxièmement, cette centrale va être raccordée en eau potable de la Sorre via presque 5 km de canalisation, car la nappe phréatique prévue à l'origine est trop polluée par la chimie des nitrates, etc., qui ont été répandus pendant des années, et elle est en quantité insuffisante.
Et donc, ils ont besoin de cette eau pour quoi faire ?
Alors, premièrement, ils ont besoin de l'eau pour le risque incendie. Donc, les pompiers vont insister sur 5 citernes de 120 mètres cubes chacun, c'est-à-dire un stockage de 600 000 litres d'eau potable en permanence, au cas où un feu se déclarait
sur le
site. Après, ils ont besoin de l'eau parce que les ovins ont besoin de boire. Troisièmement, l'insertion paysagère de ce projet propose ces 23 000 m² de plantations de haies qu'ils doivent arroser pendant 4-5 ans avant qu'ils commencent à pousser.
Donc en fait, c'est une intégration paysagère, c'est des panneaux solaires pour, d'après Photosol, pour sortir un peu de ce réchauffement climatique. Mais à côté de ça, l'eau qui devient rare va être quand même surutilisée finalement.
Oui, ça fait plus d'une dizaine d'années que chaque été, on a des restrictions. Il ne faut plus remplir les piscines, il ne faut pas arroser ses voitures. Et là maintenant, on va nous remettre une source de consommation d'eau en plus de tout ce qui manque. C'est une aberration pour la région.
Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, ils peuvent récupérer de l'eau, surtout pour leurs réserves de citernes incendies. Ils n'ont pas besoin d'eau potable.
Exactement.
Voilà. Et il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, mais il faut maintenir en haut 5 mares qu'ils vont construire de 100 mètres carrés chacune. Donc ça, il faudrait remplir ça, les mares, avec de l'eau potable. C'est, pour nous, c'est complètement, c'est aberrant de même y penser.
D'accord, et ces mares, du coup, c'est aussi pour une intégration paysagère?
Oui, ils vont mettre un aire de pique-nique, je crois, à côté d'une de ces mares. On pourra pique-niquer entre ces panneaux qui font 3,10 mètres de haut et les regarder.
D'accord, donc finalement, c'est aussi, du coup, le petit plus qu'ils vont apporter, d'après eux, au territoire de Montcuq, en faisant un petit lac où on pourra pique-niquer, se promener.
Voilà. Cinq mares, 100 mètres carrés chacun. Et aussi, ils vont mettre 300 ruches pour les abeilles, pour apporter un peu plus de biodiversité. Sauf que nous avons parlé avec les apiculteurs qui sont déjà sur le site.
Oui.
Il y a 70 ruches là-haut en ce moment. Et leur réponse, c'est qu'ils vont mourir de faim. Parce qu'il n'y a déjà pas assez à manger là-haut pour les 70 ruches existantes. Donc, seule solution sera d'amener ce qui est en effet du sucre pour nourrir les abeilles.
Oui, mais surtout que pour éviter les incendies, surtout avec des panneaux solaires qui chauffent énormément, ils vont être obligés de couper l'herbe, les fleurs sauvages qui poussent autour des panneaux. Donc, du coup, ça fait une source en moins pour les abeilles.
Absolument. Absolument. Le projet, quand on le lit comme ça à froid, c'est complètement ridicule.
Il y a aussi autour du site, il y a une obligation légale de débroussaillement qui vient du préfet, en fait. Et ce débroussaillement, d'après notre spécialiste, va mettre en péril, par exemple, 3 espèces de papillons protégés qui sont recensés sur le site. Je peux les nommer, mais
d'accord.
Il y en a 3. Ça va aussi mettre en péril 2 espèces de lézards protégés qui sont recensés sur le site.
Après, je suppose qu'il y a des chauves-souris aussi. Alors après, toutes les chauves-souris sont protégées?
Toutes les chauves-souris sont protégées. Et en plus que ça, les chauves-souris, c'est un petit problème parce que ils volent normalement pas plus de 5 mètres au-dessus du sol. Mmh. Et là, ils ne vont plus savoir où ils sont à cause de leur radar va être brouillé par tous ces panneaux.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les rapaces, il y a des rapaces qui sont tous protégés, ils n'auront plus leur terrain de chasse ouvert parce que
ils mangent des souris, enfin toutes sortes de petits.
Oui, oui, donc en fait toutes ces espèces qui sont des espèces préservées voire sauvegardées, finalement elles sont vouées à se déplacer ou alors à périr.
Ouais, exactement.
Oui, il y a un autre point important qui est ressorti de notre spécialiste naturaliste de l'association, c'est que c'est écrit dans l'étude d'impact de Photosol aussi, mais le projet est concerné par la présence d'un corridor écologique, milieu ouvert de plaine à préserver. Et notre naturaliste, voilà sa conclusion. Je cite, « Suivant les indications du schéma de cohérence territoriale de Cahors, le projet aurait pu se faire n'importe où, sauf sur la zone choisie, car elle représente un corridor écologique de type milieu ouvert de plaine à préserver. » On ne peut pas dire plus que ça.
Voilà, on ne peut pas dire plus que ça. Et en plus, il me semble que c'est des terres à fort potentiel qui sont sur le site aussi.
Oui, ce sont des terres agricoles. Alors évidemment, elles ont été travaillées en chimie. Le sol est un peu abusé, mais ça peut très bien être travaillé un peu plus... comment dirais-je, intelligemment, excusez-moi, je ne veux pas insulter non plus mes collègues, mais travailler autrement pour redonner un petit peu d'énergie au sol. Ça, c'est... L'agriculture a beaucoup de progrès à faire, et quand elle les fera, elle obtiendra des résultats tout à fait exceptionnels. L'agriculture bio, les céréaliers bio font vraiment des beaux produits et sont quand même parfaitement dans les temps pour les productions. Donc ça se voit ailleurs, mais tout le monde peut apprendre à travailler. Hein. Il suffit de faire les formations qu'il faut Et en plus, les gens sont très contents parce que quand ils passent en bio, ils ont beaucoup moins de risques avec leur travail.
Voilà, encore faut-il que, qu'on soit informé de cette possibilité.
On n'invente pas tout seul, mais on peut voir les résultats que d'autres ont fait et en prendre tous les éléments qu'il faut pour changer ses méthodes de culture.
Et comme on parle un peu d'agriculture, du coup, en quoi est-ce que l'agri-photovoltaïque pourrait être bénéfique pour les moutons, par exemple, ou pour l'éleveur, en fait, hein?
Mais écoutez, déjà, les fermes ovines ont quand même une certaine difficulté à vivre. La laine n'est plus intéressante. Il faut quand même beaucoup de prairies et les réchauffements climatiques les abîment. Et quand même, les herbes, elles vivent elles aussi de photosynthèse. Les plantes, c'est 95 à 98% de photosynthèse. Alors je pense que pendant 2-3 ans, on aura peut-être un peu d'herbe pour les moutons, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Alors les pauvres moutons, moi vraiment, je les plains d'avance. Quant aux abeilles, je ne crois absolument pas qu'elles vont y rester non plus. Il suffit de regarder ce qui se passe maintenant avec les abeilles pour comprendre que dans un système comme ça, elles vont toutes se sauver à toute allure ou dépérir et mourir très vite. Non, là, il n'y a pas d'avenir agricole.
Oui, surtout si les terres alentour ne sont pas des terres cultivées, des terres bio. Quoi, voilà. Hein, s'il y a des pesticides autour, les abeilles ne vont pas faire long feu. Non.
Tout à fait.
Il y a un point important qui ressort de l'étude d'impact, celle de Photosol, faite par leur bureau d'études, que je trouve intéressant, puisque dans plusieurs articles de presse et à la radio, Photosol ont dit que les terres étaient, et je cite, « vouées à l'abandon ». Or, si on lit page 152 de l'étude d'impact de Photosol, on peut lire le suivant. Je cite, « Le site d'étude prend place au droit de sol possédant un fort potentiel agronomique. En effet, ces sols ont permis le développement de la céréaliculture dans les bassins de production du Quercy blanc. » Donc dire que c'est...
Ils se contredisent en fait tout seuls dans la même étude.
Voilà. C'est ça.
Alors après, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Photosol, je suis allé sur leur site pour voir un peu ce qu'ils racontaient. Hein. Alors ils s'annoncent comme le plus gros portefeuuille de centrales françaises en exploitation et construction. Donc c'est vraiment un des plus gros promoteurs solaires.
Hein. Oui. Il semblerait, oui. Si on regarde beaucoup de sites des promoteurs, ils sont tous, ils disent, premier producteur ou deuxième producteur. Ils vantent tous d'être super importants, mais beaucoup sont financés ailleurs. Allemagne, par exemple. Beaucoup de sociétés en France sont en effet des filiales de sociétés allemandes.
Alors après, pourquoi est-ce que les personnes qui ont les terrains hein, acceptent, alors je ne sais pas s'ils les louent ou s'ils les vendent, c'est plutôt pour l'intérêt financier ?
Oui, vous savez, les retraites agricoles sont très très basses. Donc quand quelqu'un arrive en fin de carrière, qu'il sait qu'il aura 700 à 800 euros par mois, eh bien évidemment, si on lui propose la même somme ou plus, eh bien, il va sauter sur l'occasion.
Par hectare.
Sans réfléchir qu'il va comme ça casser tout le tourisme qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années. Parce que est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont venir dans des gîtes pour admirer non plus les paysages du Quercy, mais des zones de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques? Non, c'est fini. Donc ils ne revendront plus leur maison, il n'y aura plus de tourisme. Tout ce qui s'est développé autour risquera de baisser des crescendo et puis de s'arrêter. Donc c'est vraiment tout un travail, parce que ça a été long à mettre en place, hein, les accueils touristiques dans nos coins.
Oui, donc en fait, s'il y a des gîtes sur le territoire de Montcuq qui sont labellisés, ils vont perdre leur label.
Ils perdront leur label, oui.
Oui, du coup, ils vont être obligés de baisser leurs tarifs alors qu'ils auront moins de clients. Donc c'est double peine pour eux.
Double peine, oui. Mais ça, il suffirait simplement que les propriétaires de gîtes se renseignent auprès de leur label, qui leur dira, comme nous on l'a entendu, qu'on ne donne pas le label à un gîte qui est au milieu de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques.
Et puis aussi, nous avons un de nos adhérents qui est... C'est un autre projet dont je pourrais vous parler à la cour de visa, qui va être... Elle a une très belle maison et un gîte, qu'ils ont passé 15 ans à développer leur gîte. Et maintenant, ils vont être entourés de trois côtés, si le projet avance, de panneaux photovoltaïques à 20 mètres de leur porte. Et c'est une dame qui est retraitée, qui comptait sur les revenus de son gîte pour sa retraite. Et elle ne sait pas quoi faire. Donc on a pu expliquer qu'elle a quand même la possibilité d'attaquer ces gens en justice si le projet se fait pour être dédommagé.
Oui, normalement, un projet de champ photovoltaïque, en fait, ne doit pas avoir d'impact sur des projets déjà existants ou en train d'être créés avant lui.
C'est une question un peu floue. Mais ce que nous savons, c'est que le Code civil, en gros, dit que si quelqu'un vous fait un préjudice, vous avez le droit de réparation pour le préjudice. Et en ce qui concerne les maisons, il y a des jurisprudences là-dessus. Chose très importante à faire, si on est devant un projet comme ça, il faut prendre un expert immobilier agréé par le tribunal d'appel de votre... la cour d'appel. Donc, pas prendre un agent immobilier pour vous dire « Oui, ça vaut 400 millions ». Il faut un expert agréé. Lui, il vient, malheureusement, il va vous demander des sous. Il va vous donner une évaluation de votre bien qui va tenir bon plus tard. Si le projet se fait, vous pouvez, dans ce cas, faire revenir l'expert ou un autre expert agréé qui va quantifier la perte de valeur de votre maison, qui pourrait aller de 300 à invendable carrément. Et donc, vous pourriez demander au tribunal de vous dédommager ces sommes. Et aussi, pour le préjudice moral que vous avez vécu pendant, ça va être quelques années, avec ce projet au-dessus de votre tête.
Ouais, c'est un combat qui s'entame quand on a des panneaux solaires qui débarquent à 20 mètres de chez soi. Hein.
Oui, c'est malheureux que tout ça se passe. Enfin, la France est maintenant sillonnée par des vendeurs de parcs qui vont à l'attaque des conseils municipaux, les mairies, pour essayer de vendre leurs projets. Et je pense qu'on devrait vraiment pouvoir mettre en place quelque chose qui dit « oui, on peut les mettre là, on ne peut pas les mettre là ». Et d'ailleurs, en 2019, l'ADEME a fait une grande étude sur toute la France pour identifier des sites où on pourrait et où on devrait d'abord mettre de l'énergie renouvelable. Et c'est une quantité importante. Donc nous disons, faisons ça d'abord. Développons ce qu'on a pour voir où on en est après ça. Parce qu'il y a aussi l'objectif de zéro artificialisation des sols nets qui fait partie des politiques de planification de l'énergie solaire. Et dans le cas du projet de Montcuq, par exemple, il y a une artificialisation des sols importante. Je vais vous donner le chiffre quand je peux le trouver. C'est plus que 8 hectares de ce site va être artificialisé pour les chemins d'accès, pour les chemins de sécurité. Après, nous avons les parties qui vont être bétonnées pour le poste source, qui, lui, va être entouré d'une clôture, pas de 2 mètres de haut, mais de 3 mètres de haut. Il y a aussi les caméras de surveillance, les postes de caméras de surveillance partout dans le site. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si on rentrait dans un prison. Et puis, je me suis posé la question, imaginez l'agriculteur qui viendra pour la première fois voir son nouveau... la nouvelle place où il va travailler, il rentre dans un prison.
Oui, c'est ça, parce qu'à mon avis, il y a un code ou alors un badge à passer. Et puis, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un grillage.
C'est un grillage, ça fait... Je ne me souviens plus de combien de terrains de football.
Ce projet fait 100 terrains de foot ou de rugby, si on, juste celui-là.
Oui, c'est énorme.
Nous travaillons en ce moment, l'association, sur des projets qui vont faire plus que 500 terrains de foot juste en Quercy.
Mais alors, moi, je me demande quand même l'impact aussi d'écoulement des eaux sur autant d'hectares de recouverts par des panneaux solaires. Ça doit forcément changer l'écoulement des eaux sur le terrain.
Absolument. Oui.
Les promoteurs disent non, bien sûr. Ils disent que c'est la même eau qui tombe, donc s'il y a un peu plus... sur la pente bas du panneau, il fera peut-être quelques trous, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez de recul ou d'études qui ont été faites. C'est comme les propositions de mettre ces centrales sur des lacs et les plans d'eau. Alors oui, on peut les flotter sur les lacs et les plans d'eau, mais c'est la même chose. Quel impact sur l'environnement ?
Ah ben là, la biodiversité, je pense que oui. Ça prend un coup. Hein.
Il n'y aura plus de lumière au fond de...
Après, pareil, je pense que ces parcs-là photovoltaïques, il doit y avoir un éclairage constant la nuit aussi.
Non.
Non ?
Non, ça c'est interdit.
D'accord. Oh, heureusement.
Oui.
Quand je vois des fois, en passant près d'habitations où il y a des terrains agricoles, on voit des hangars recouverts de panneaux solaires. Jusque-là, ça va. Mais alors là, quand on arrive à 66 hectares, ça n'a pas le même impact visuel non plus.
Tout à fait.
Non, il n'y a plus de paysage.
Ouais. Et du coup, ça va faire beaucoup moins de promeneurs aussi.
Ah, bien sûr.
Et puis, il ne faut pas oublier à chaque fois. Là, on est en train de parler de projets industriels. Pas des projets qui vont donner de l'électricité pour les gens du coin. Parce que la façon dont ça se passe la plupart du temps, c'est que le promoteur, dans ce cas à Montcuq, il y a un compteur sur la production de son énergie et il va presque sûrement le vendre. Ça pourrait être quelqu'un comme Enercoop d'ailleurs, pour pouvoir vendre de l'énergie verte. Mais souvent, ils vendent, parce que c'est plus sûr, ils signent un contrat d'achat d'électricité à des grandes sociétés, comme par exemple La Poste, qui, vous savez, on le sait très bien, La Poste est 100% neutre en carbone. Donc s'ils ont un centre de tri de poste, disons à Marseille, cet centre peut signer un contrat pour acheter l'électricité qui provient de Montcuq, pour pouvoir dire qu'il tourne à l'énergie verte.
Oui, alors qu'en fait, non.
Mais les électrons ne vont pas aller de Montcuq jusqu'à Marseille, bien sûr. Mais donc c'est vraiment c'est quelque chose de complètement industriel. Et ce que nous cherchons, comme j'ai expliqué, c'est d'encourager les gens et les communes sur une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour donner de l'énergie pour nous, dans notre commune, dans des conditions qui sont acceptables pour nous. Il y a des exemples au nord du Lot.
Tout à fait, il y a Célé-Watt et Fildom. Voilà, il y a Fildom aussi qui propose ça. Hein. C'est vraiment des choses mutualisées.
C'est faisable.
C'est à échelle, c'est à taille humaine. Ouais. Donc il n'y a pas de dénaturisation de paysage. Et c'est fait dans des endroits où, vu la taille qui est réduite, il n'y a pas de réel impact en fait, au niveau visuel.
Non, puis ce sont aussi souvent des petites installations. Alors, bon, moi j'ai mon exemple, j'ai 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et en faisant le calcul, je me suis rendu compte que ce que je vendais à EDF correspond à 95% de ce que je consomme. Donc bon, 30 mètres carrés, c'est peu. Si chacun peut faire 30 mètres carrés un petit peu partout. Et puis moi, je vise aussi les zones commerciales et industrielles qui sont autour des villes, qui sont si laides. Qu'est-ce que ça changerait pour eux d'avoir des panneaux sur les toits ?
Complètement.
Ça permettrait de garder nos sols agricoles, et puis en plus, ce serait tout près du lieu de consommation. Hein, les villes, ça consomme.
Mais alors, je ne sais plus en quelle année il y avait le gouvernement qui était parti dans ce sens-là, il me semble.
Oui, voilà. Puis je crois que l'ADEME a également conseillé de faire ça.
Il y a une doctrine régionale pour l'Occitanie. Et donc c'est encadré tout ça. Hein. Ces projets dont on parle, comme Montcuq, essayent de contourner tout ça. Mais je vous donne un exemple. Doctrine régionale pour l'Occitanie. C'est un note de cadrage des services de l'État pour l'instruction des projets solaires photovoltaïques. Et on peut lire, par exemple, c'est à la page 11, et je cite, pour les installations au sol, les sites à privilégier sont les anciennes carrières, les anciens terrains miniers, les friches industrielles, les délaissés routiers ou autoroutiers, les centres d'enfouissement de déchets, trois petits points. Et moi, je rajouterais les parkings, les bâtiments industriels et commerciaux, les bureaux, les habitations existantes et toutes les constructions nouvelles, tous les bâtiments qui appartiennent aux municipalités et collectivités. Et j'en oublie sans doute quelques-unes, mais et à la même chose à la page 1, c'est encore plus précis. Je cite, la consommation de surface agricole utile pour le développement du solaire photovoltaïque est un conflit d'usage avéré qui n'est pas acceptable, même si la réversibilité d'usage est techniquement possible après l'exploitation de la centrale, même si d'autres conflits d'usage consomment des surfaces agricoles très importantes depuis de nombreuses années, par exemple infrastructures routières, urbanisme. De plus, le potentiel hors surface agricole est suffisamment important pour permettre d'être particulièrement sélectif. Donc ça, c'est pour la région. Il y a aussi les politiques qui sont issues des lois Grenelle pour l'environnement. Les politiques de planification de l'énergie solaire, avec l'objectif de zéro artificialisation nette, indiquent qu'il faut mieux appliquer la priorité d'implantation sur les surfaces déjà artificialisées.
Oui, voilà, on ne va pas encore détruire de la nature pour nous créer de l'énergie.
Absolument. Voilà.
Et le plus récent, c'est le guide 2020 du ministère de la Transition écologique et solidaire, sous le titre « L'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les centrales solaires au sol ». Et nous pouvons lire à la page 9, c'est des points. « Privilégier les terrains déjà dégradés ou artificialisés. Proscrire les terrains agricoles ou naturels dès lors que l'installation est incompatible avec leur vocation. Les zones et secteurs agricoles, forestiers et naturels ne sont en principe pas ouverts à l'installation de centrales solaires au sol. »
Voilà, et là, en fait, c'est des champs cultivables.
Oui.
C'est des champs. Ils sont cultivés maintenant.
Ils ont reçu...
De l'argent de la PAC.
Voilà, donc en fait, ça rentre pas dans le cadre de ce que vous venez de
dire. Oui, sauf qu'ils essayent de le contourner par convaincre les gens que l'agriculture continue. Donc ça, c'est le but de le plan sur la compensation collective agricole. Ils vont regarder quels sont les revenus de ces terres aujourd'hui. Si on accepte le changement de destination en mettant les moutons, quelles sont vos estimations de la production? Parce que si c'est moins que ce qu'il y a maintenant, c'est absolument non, non et non. Et d'ailleurs, c'est le cas à Montcuq.
Mais à Montcuq, c'est ce qui va se passer.
Le projet qu'ils ont présenté, il y a une perte.
Mais tout à fait, parce que les moutons, comme vous le disiez tout à l'heure, ça rapporte...
C'est pas une production qui apporte une énorme richesse.
Voilà, c'est ça. Là, le céréal apporte plus que la laine.
Voilà, avec la PAC incluse.
Mm-hmm. Pour les principes, je pense que nous suivons exactement les notes de cadrage de l'Occitanie et de la région, sauf que nous aimerions voir des projets locaux par des gens... pour eux et pas ces projets qui...
Oui, voilà, parce que si c'est pour vendre l'électricité à Total derrière...
Oui, voilà, ouais.
Mais oui, on ne va même pas profiter de ce qui est produit.
Attention, parce qu'on va être... Ça, c'est la peur que moi, j'ai à titre personnel, et je pense que l'association aussi. Là, on est déjà... On commence à être envahi par des projets. Je pourrais peut-être pour vos auditeurs, juste... qui sont peut-être pas au courant. Mais il y a un projet à la cour de Visa dans le Tarn-et-Garonne, 82 150, je crois. C'est un projet sur 57 hectares de terres agricoles porté par une société qui s'appelle Valeco. Même chose que mon CUC. On va pâturer les moutons sous 50 000 panneaux photovoltaïques. Il y a aussi un projet sur 15 communes, sur 3 départements et 150 hectares de terres agricoles. Dans le Lot, dans la commune de Porte du Quercy, Moroux, Floressas, Montcuq en Quercy Blanc, Sérignac. Dans le Lot-et-Garonne, Anté, Courbiac, Masquières, Tézac, Tournon d'Agenais. Dans le Tarn-et-Garonne, Roquecor, Saint-Bauzeil, Montigu du Quercy, Saint-Amand-du-Pêche et Valeil. Alors, il s'agit d'un projet d'ombrière, entre guillemets, et irrigation, parce que c'est un projet qui est monté par une société qui s'appelle TSE, avec l'ASA du Lot pour l'irrigation. Et ça va être installé à un minimum de 8 mètres au-dessus des terres agricoles. Il propose de mettre des ombrières. Et il propose de le faire avec un système de câbles, de tirage, etc., qui est non existant à ce jour, qui est non éprouvé et non homologué, pour permettre le passage en dessous des engins agricoles.
D'accord, oui.
Et alors, ça veut dire qu'il y aura environ 30% de la surface productive va être artificialisée. Par des chemins de service, etc., etc. Il y a des pieux de fondation, il nous annonce, qui vont aller jusqu'à 14 mètres de profondeur dans le sol.
Et oui, pour que la structure soit fixe.
Oui, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à Saint-Bauzeil, le conseil municipal ayant reçu les vendeurs de parcs deux fois, ayant posé des questions très intelligentes et éventuellement reçu des réponses, la semaine dernière, se sont réunis en conseil municipal et ont voté pour interdire ce projet sur le territoire de la commune. Et c'est important, d'autant plus important, puisque c'est Saint-Bauzeil qui était destiné à être l'endroit pour le poste source pour lier tous les autres que je vous ai nommés.
D'accord.
Donc, on a besoin que... Ça ne va pas arrêter le projet, parce que les mairies n'ont aucun pouvoir.
Et je pense qu'on va en voir de plus en plus arriver avec, avec le réchauffement climatique. Donc, moi, j'invite les maires de village à consulter leurs citoyens avant de prendre une décision. Parce que finalement, le maire, c'est la voix de ses habitants.
Il faut absolument qu'il ait toute l'information. Et c'est ça qui est quelquefois difficile.
Ce serait bien si, quand il y a des projets, puisqu'on est quand même une association qui est assez bien connue, on a quelques expertises, et nous, on serait tout à fait prêts d'aller, si vous voulez, faire un peu un débat contradictoire avec les promoteurs. S'ils disent c'est A et c'est rouge, et nous, on sait que c'est B et c'est bleu, eh bien, ce serait bien de pouvoir le dire pour aider les conseillers municipaux de prendre un avis ou demander plus de questions. Parce que juste le vendeur, exemple de la cour de Visa, le conseil municipal a été réuni par le maire avec sur l'ordre du jour projet solaire. Rien de plus. Ils sont arrivés à 18h30, je crois, à la réunion. Il y avait dans la salle quatre vendeurs, quatre personnes de la société promoteur qui ont présenté un projet dont les conseillers n'avaient aucune information préalable, ce qui est contre la loi. Et je vais vous expliquer dans une minute pourquoi. Le maire, qui est propriétaire d'une partie de ces terrains, au moins, il s'est retiré du vote. mais il est quand même resté dans la salle pendant la délibération, et les quatre vendeurs sont restés dans la salle pendant la délibération. Le conseil municipal se sentait oppressé. Ils ont voté à la majorité oui. Et après, ils se sont rendus compte que ça ne va pas. Donc, ils ont saisi eux-mêmes le tribunal administratif pour annuler ce vote.
Pour annuler le vote, oui. Parce que, de toute façon, c'est des commerciaux. Donc, eux, ils arrivent déjà armés. Ils sont formés pour vendre.
Voilà, exact.
Donc, si nous, en tant que citoyens, on n'est pas formés pour résister aux techniques de vente.
Oui, oui.
Voilà, exactement. Et sur le point de ces décisions, dans le cas de la Cour, mais c'est pareil pour tous les projets, si le projet concerne l'environnement, c'est le projet qui est sur l'ordre du jour du conseil municipal, alors il y a une obligation de donner avec la convocation, au moins 5 jours avant la réunion, une synthèse du sujet. Alors, ça se passe quasiment jamais, mais nous avons attaqué au niveau de la préfecture en ce moment, mais nous irons jusqu'au tribunal administratif s'il le faut. Nous avons attaqué les décisions de la Cour pour les faire annuler pour cette raison, qu'ils n'étaient pas légales ou valables.
Voilà, parce que du coup, ces 5 documents qu'ils donnent en amont, ça permet de pouvoir se défendre face aux armes des vendeurs, finalement.
Oui,
et d'avoir un jugement peut-être un peu plus...
Oui, de pouvoir consulter d'une manière posée et
réfléchie, ouais, tout à fait.
C'est pour éviter une réponse à l'arraché, comme on appelle ça.
Donc finalement, vous êtes contre ce projet de champ photovoltaïque, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes anti-photovoltaïque.
Ah non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables du tout. C'est une question de... Je crois que si vous regardez notre site, il y a une citation de quelqu'un d'assez fameux, j'oublie son nom. En gros, ça veut dire oui, on est pour tout ça, mais pas n'importe où, pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Et une chose très importante, il va y avoir enquête publique. Et il faut que les gens, s'ils ont un avis, se renseignent sur le sujet et envoient une contribution ou aillent voir l'enquêteur public. Parce que si personne il va rendre un rapport au préfet pour dire « j'ai vu personne, donc je pense que la population est pour, donc à vous de choisir ». Par contre, et on a eu l'expérience à Castelnau-Montratier il y a quelques années, c'était pour un projet photovoltaïque. 4 associations se sont mises en coopération sur ce projet. On a pu sortir, je crois que c'était 480 ou 500 personnes ont rendu des contributions et seulement 3% étaient pour, tout le reste était contre le projet. L'enquêteur public a donné son rapport au préfet pour dire « les gens ici ne veulent pas ça » et le préfet a dit « non ». Donc c'est très important pour que les gens contribuent aux enquêtes publiques.
En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on est quand même en démocratie.
Voilà, exact. Exact.
Tout est dit, non. Il faut vraiment que les gens fassent très très attention à ce qui se passe, qu'ils ne se laissent pas rouler dans la farine parce qu'ils n'ont pas les informations. Il faut absolument chercher des informations, puis chercher également comment on peut se sortir un petit peu d'affaires, comment être responsable de ce qu'on fait, de son domaine, des avantages de certains petits aménagements qui sont... C'est rien du tout à faire, mais ça aide énormément, ça contribue à l'énergie locale, au progrès local, sans abîmer quoi que ce soit. Donc, effectivement, il faut aussi savoir.
Je peux faire un dernier mot publicitaire pour l'association.
Bien sûr.
Si les gens pensent un peu comme nous, vous pouvez soutenir les actions de l'association en devenant membre bienfaiteur. Le bulletin d'adhésion est sur le site internet de l'association. C'est pas très difficile. Donc je vous encourage à faire ça. Plus qu'on a d'aide, le plus fort, on est plus fort ensemble.
Et le site internet de l'association, c'est environnement-juste.fr ?
.org, O-R-G. Oui, environnement-juste.org. Ou vous tapez tout simplement environnement juste dans
le moteur
Google
de recherche,
et vous allez trouver.
D'accord. Et après, on peut vous rejoindre aussi en tant que membre de l'association.
Oui, oui, bien sûr.
Absolument, absolument. Vous cliquez sur la rubrique « Contact » et vous tombez sur l'adresse de courriel de l'association. Tous les membres du conseil d'administration reçoivent les courriels qui arrivent. Donc, si vous voulez faire contact avec nous, site internet, contact, envoyez-nous un petit mot et vous recevrez une réponse assez rapidement.
Voilà, après, les auditeurs peuvent aussi retrouver tous les documents des affaires en cours.
Oui, on a une mise à jour assez grande à faire dans les 2 ou 3 jours qui suivent, mais il y a des documents qui vont de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a tous les documents dont je vous ai parlé aujourd'hui, l'étude d'impact environnemental pour le projet à Montcuq, et d'ailleurs tous les documents de la demande de permis de construire, si les gens ont le temps, ils sont tous disponibles sur notre site. Tous les documents venant du ministre, du préfet du Lot, de l'Occitanie, ils sont tous disponibles. Vous pourriez les lire ou les télécharger pour les lire plus tard.
Alors après, moi j'avais une dernière question à vous poser à chacun de vous. Hein. Si vous aviez, vous, une mesure phare, si vous étiez candidat à la présidentielle, laquelle ce serait ?
C'est un peu difficile, ça. Candidat à la présidentielle, non, ça... Bon, je ne pense pas. Non, mais c'est de respecter les citoyens. Et il faut absolument que tout soit clair, transparent. Et puis, toutes ces affaires qui sont contre les gens, on se précipite pour essayer de rouler dans la farine parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre conscience de ce qui se passe. Ça devrait être des choses absolument interdites et régulées. Et que ça ne puisse pas continuer à se faire. C'est-à-dire qu'il faut empêcher une propagande commerciale qui essaie de casser, saccager pour des profits immédiats. Ça, c'est pas possible. On a un très beau pays et il faut le conserver pour nous, pour nos enfants, pour le futur, avec une belle agriculture, avec des arbres, avec des insectes, avec une vraie nature, une vraie biodiversité. Parce que nous aussi, nous faisons partie de la biodiversité. On est dedans.
Si les autres manquent, on est dans la boucle.
Ben, on n'existe plus.
Moi je proposerais une loi pour obliger les gens de traiter l'environnement et la biodiversité comme si c'était un de ses enfants. Si vous ne le feriez pas à votre enfant, ne le faites pas du tout.
Du coup, respectez ce qui se passe autour de nous. Donc finalement, ouais. Les deux mesures se rapprochent.
Oui, oui. Transmettre quelque chose de bien aux générations futures.
Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir informés sur ces projets. Et si jamais vous avez du nouveau, n'hésitez pas à nous contacter et à revenir au studio.
Merci de nous avoir reçus.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.